les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
L'homme vit seul quelque part dans la région Rhône-Alpes. Comme une fin de parcours ou un début chaotique. Il n'a pas d'enfant, il subvient à ses besoins grâce au maigre subside du revenu minimum d'activité. À l'occasion, il fait des petits boulots au noir sur des chantiers dans la région, mais il n'est jamais très à l'aise. À vrai dire, il n'a jamais vraiment travaillé. Il a tout fait pour échapper à ça. Pendant longtemps, il a assez bien réussi, de ce point de vue. Il s'appelle Brian, il raconte un bout de sa vie aujourd'hui. Sa voix d'outre-tombe, caverneuse et enfumée, ne vient pas seulement de ses excès, mais d'une petite tumeur sur une corde vocale, il y a un an et demi. Son accent, lui, vient simplement d'outre-Manche, et son histoire, quant à elle, semble directement sortie d'une série télé, une sorte de Breaking Bad à la française ou à la mode de Bollywood, avec des chansons et des couleurs, puisqu'elle se passe d'abord en Inde, avant d'atterrir sans musique dans le fin fond de la France. Une histoire qui n'est guère édifiante, encore moins exemplaire, mais devrait nous rappeler que la consommation excessive de stupéfiants est très dangereuse pour la santé et par ailleurs tout à fait interdite par la loi, comme on le garde en mémoire jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, la vie de Brian, une histoire racontée par Jérôme Sandelard.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Alors, je m'appelle Brian. J'ai 61 ans et je commence à les sentir. Le temps passe à une vitesse qu'on veut. Tandis que jusque-là, l'âge de 60, j'avais l'impression que j'avais toujours du temps devant moi.
Vous avez un petit accent ?
Oui, anglais. Ouais. J'ai jamais pu le cacher.
Ouais. Brian, ça fait longtemps que vous vivez en France ?
Oui. Ça fait depuis l'âge de 21 ans, donc ça fait 40 ans cette année. Hein. J'ai pas passé tout ce temps en France. J'ai passé beaucoup de temps en Inde. Très jeune, j'ai senti une attraction pour le cannabis. Et entre 16 et 18 ans, ma consommation a été chronique, hein, du matin au soir. Et ça allait en augmentant. Hein. Et comme ça coûtait assez cher en Europe, le cannabis, hein, et que je n'avais pas les moyens de me payer une consommation, sinon il aurait fallu travailler dur. Et dans ce cas-là, je n'aurais pas eu le temps de fumer. Et comme j'étais aussi de nature indolente, ça n'était pas très compatible avec le travail. Le travail, je le voyais comme l'enfer sur Terre. Alors, mon rêve était de me procurer une fontaine de cannabis, hein, d'avoir une provision qui me durerait toute ma vie. Hein. C'était mon rêve. Et mon rêve est devenu un peu réalité, pour le bien ou pour le pire. Alors, j'étais cherché à la source, d'abord au Maroc, où j'ai fait mon premier voyage chargé avec du cannabis, mais en quantité modeste, c'est-à-dire 1 kilo, à l'intérieur d'un deux chevaux, précisément dans la direction, la camarière de la direction d'un deux chevaux. On était allé chercher avec mon épouse de l'époque, dans la montagne du Rif. On l'a ramené en Europe, on a vendu en France et puis en Suisse un petit peu, à Genève, à Lausanne. Et l'année suivante, c'était l'Inde. de 30 ans, je vivais déjà en Inde à l'année. Je vivais un petit peu en ermite en Inde. À cette époque-là, dans les années 70-80, le cannabis était encore légal en Inde et on pouvait l'acheter dans des boutiques gouvernementales. Mais après un long séjour où on n'avait plus de ressources, là, on était déjà attiré par faire la commerce avec le cannabis. Et comme j'étais déjà consommateur et à force connaisseur modeste, j'avais une facilité aussi peut-être déjà à sélectionner le cannabis. Et puis à force de fréquenter le milieu, ça facilitait aussi le travail. Alors, le premier voyage que j'ai fait en partant de l'Inde avec du cannabis, c'était de l'huile. Mais ce n'était pas d'une très bonne qualité et ce n'était pas moi qui le transportais. C'était quelqu'un de ma famille. C'était de l'huile qui était faite avec de l'alcool. Et on ne fait pas de la très bonne huile avec de l'alcool. Mais ça se vendait bien quand même, hein, ici en Europe. Les gens ne connaissaient pas vraiment la différence, ils ne connaissaient pas très bien l'huile. Mais l'effet psychotrope était là. Par la suite, à force de me pencher sur le sujet, je me suis perfectionné avec la méthode d'extraction, les solvants qu'il fallait utiliser. Et j'ai cloisonné une partie de ma maison pour faire un laboratoire de professionnels. Tout en verre, hein. Et une autre partie, j'ai carrément défait le plancher pour cacher le solvant et la matière première. Parce que l'équipement de laboratoire est dangereux et compromettant à stocker. Alors, l'Inde, c'est le seul pays au monde où on peut acheter des solvants de laboratoire sans avoir une licence pour extraire. C'est assez risqué, hein. Parce que les solvants sont inflammables à 40-60 degrés et explosifs aussi à ces températures-là. Et s'il y a le moindre étincelle, l'équipement peut exploser. Ensuite, je suis allé dans les montagnes du sud de l'Inde pour acheter de l'herbe qui à l'époque était de très très bonne qualité. Et là, on a partagé ça avec mon frangin. On a investi ensemble, on est allé sélectionner ensemble, on l'a fait transporter en 4x4 chez nous, ensemble, et on s'est mis à extraire. On a extrait peut-être 1,5 kg par là, je ne sais plus, 1,5 kg, ouais. Mais j'ai jamais fait aussi bon de ma vie, aussi fort. Ça mettait les gens vraiment par terre. Comme moi aussi, j'étais le premier consommateur. Je faisais le mieux que je pouvais pour me payer une consommation le meilleur possible et puis aussi accessible au niveau du coût. Ma production allait tout le temps en augmentant, à exponentielle, au fil des décennies. Alors, au début, ça me donnait une liberté, déjà, de ne pas avoir à travailler tous les jours, hein, de travailler quand j'avais envie. Ça me permettait de passer la journée à écouter de la musique, à lire, à ne pas avoir des contraintes, hein, de me lever quand j'avais envie, de me coucher quand j'avais envie. Moi, ça me permettait de vivre un petit peu comme un touriste, hein. Comme je me suis un peu toujours senti comme à l'étranger, c'est une situation qui m'a toujours plu, d'être un étranger, que ce soit en Europe ou que ce soit en Asie. Ne pas être contraint aux lois de l'État. Pas que je me considérais au-dessus des lois, mais j'ai apprécié de pouvoir me dégager un peu de ces lois-là, de faire ça en secret. Je suis quelqu'un d'assez secret. C'est peut-être pas pour quelqu'un qui est trop expansif ou c'est trop voyant, ce genre de travail. Mais moi, ça me convenait assez bien à ma nature, plutôt timide, réservée. Au début, c'était moi, avec ma femme, on restait en Inde, et mon frère, avec sa femme, restait plutôt en Europe. Et des fois, on envoyait par courrier, par colis, hein. Et des fois, c'est eux qui transportaient. Et c'est que par la suite que moi, j'ai commencé à transporter moi-même. Et, tandis que mon frère, avec sa femme, faisait des enfants et donc prenait moins de risques. Et donc, pour le conditionnement de l'huile, j'avais choisi les boîtes de conserve. Je le versais directement dans une boîte ouverte jusqu'au niveau de la hauteur de la boîte, où c'était juste, où j'avais juste la place pour mettre la couvercle avec une colle époxy, voilà. Pour que quand j'enlève les serre-joints 12 heures après, j'ai juste à mettre les étiquettes. Hein? C'était pour moi la meilleure façon de passer par les scanners. Ça commençait avec peut-être 900 grammes jusqu'à 1 kilo par voyage. Ouais. Et puis par la suite, au milieu des années 2000, c'était pas loin de 3 kilos. Ouais. Ça représentait un chiffre d'affaires de 70 000 euros. Mais ça m'a jamais fait autant d'argent liquide. Comme je consommais énormément moi-même, je donnais beaucoup aussi. Et puis le tarif changeait selon si je le vendais à un ami ou si je le vendais à quelqu'un qui allait le dégrossir. Pour passer la douane, je m'habillais comme quelqu'un de propre, les cheveux courts, sapé correctement. Donc je transportais comme un touriste ses valises avec ses affaires personnelles, de toilette, ses habits, et puis des choses qu'on ramène, soit comme souvenir ou comme produit exotique du terroir d'un endroit ou d'un autre. Ma valise était composée comme un tableau. J'avais tout dans ma tête. Et je ne me suis jamais fait avoir à la douane.
France Culture, les pieds sur terre.
C'était très difficile de sortir du cannabis des lieux de culture. C'était plus facile de passer la douane de n'importe quel pays international que de passer la douane d'un État de la Fédération indienne à un autre. Alors c'est souvent là que j'ai eu chaud. Mais il suffisait de choisir l'heure, hein, mais ça c'était impossible de calculer. Hein. Il y avait une grande partie de chance là-dedans. En sachant qu'il y a toujours une fin aussi, une fin à la chance. Hein. Départ de Manali. Hein. J'ai dû partir de là-haut, de Manali, peut-être 6-7 fois. C'est là où j'ai acheté le résine en masse. Hein. Je ne savais pas à quelle heure je partais et je pouvais même acheter un ticket de bus Et puis, la dernière minute, ne pas le prendre et partir en taxi le lendemain ou tout de suite même. Je ne savais pas. Et ce jour-là, mon intuition me disait qu'il fallait que je voyage un jour impair. Et au moment venu, j'ai changé le programme pour une raison de logistique et d'autres. Je suis parti un jour pair. Et l'intuition que j'avais d'un risque infime s'est avérée réelle. Donc je m'étais installé dans la cabine du bus. Et là, 5 minutes avant le départ, il y a le chauffeur du bus qui arrive. Et c'était ce chauffeur que je redoutais autant, que j'avais vu 2 fois avant, les années précédentes, et qui m'avait fait des grimaces vicieuses. Comme quoi, s'il pouvait me coincer, il me coincerait. Mais bon, je suis parti quand même, c'était engagé, c'était très difficile de me retracter une fois que j'avais déposé ma valise dans le soute à bagages du bus. Et je savais que c'était pile ou face. Donc là, on part, et le pire m'est arrivé. Le bus s'est fait arrêter 500 mètres plus loin, et la police monte dans le bus. L'officier vient directement à moi, comme si j'avais été dénoncé par quelqu'un. Et il vient à moi me demander voir mon passeport. Je lui montre mon passeport, tout est bon. Il demande de regarder dans mon sac à dos que j'avais à côté de moi. Je lui montre mon sac à dos, tout est bon. Et il me demande si j'ai quelque chose dans le soute à bagages. Je dis oui, j'ai une valise. Il me dit on va voir ça. Je tiens face, hein, jusqu'à la dernière minute. Hein. Alors, je continue comme si rien n'était. Hein. Je le sors, je l'ouvre. Il y a un flic qui met sa main dedans. Et il fouille pendant quelques minutes avant de tomber sur un pavé d'un kilo, bien compact. Là, il y a un autre flic qui me chope par l'épaule pour que je ne puisse pas échapper. Et on me conduit directement avec la valise vers la poste de police. Mais je sais que là s'arrête la route pour l'instant. Alors là, la soirée est longue. Au fur et à mesure qu'il sort les affaires, il sort 6 pavés d'un kilo, comme ça. Et à chaque fois, ils sont contents, ils sautent de joie. Bah, c'était une petite poste de police. Hein. J'étais la seule personne en garde à vue. Ils m'ont gardé pendant 72 heures hein, en garde à vue. Moi, je me suis laissé aller de toute façon, je n'avais pas le choix. Quand ça m'est venu là de face, je savais le risque que je prenais, j'ai pas paniqué, comme j'étais déjà au bout du rouleau un peu, hein, comme une accumulation. Hein. Là, au début, hein, il y avait des intervalles, hein. C'est-à-dire que des fois, j'épuisais le réserve que j'avais, j'ai passé un intervalle du temps, peut-être 3 mois, 6 mois, des fois même plus, hein. Sans avoir, avec moi, sans produire. Et donc même d'avoir acheté ici en Europe. Mais ces intervalles allaient en se raccourcissant de plus en plus, vers la fin, où il n'y avait plus d'intervalle. Jusqu'à la fin, je n'en pouvais plus. C'est quelque chose qui m'a arrêté avant d'arriver aux phases de burn-out. Ouais. Malgré moi, qui est venu de l'extérieur, que j'ai pris comme une sorte de signe qu'il fallait que j'arrête là. Comme si à partir de ce moment-là, mon espérance de vie allait augmenter. Je risquais 10 ans de prison incompressible et sans permission. 2 semaines après mon arrestation, j'étais transféré dans une autre prison. Et là, je rencontre une personne que j'avais rencontrée 12 d'années auparavant. Lui, il avait déjà été condamné et puis il a trouvé quelqu'un pour influencer la haute cour, pour qu'en appel, il soit acquitté. Et comme il me connaissait depuis longtemps, on avait une relation d'entrée qui était fraternelle, voire paternelle, comme je suis bien plus âgé que lui. Et il m'avait dit déjà que d'entrée, que si il le faisait marcher pour lui, il le ferait pour moi. Après, il a fallu que je trouve l'argent. Pour influencer la haute cour, ça coûtait beaucoup d'argent. Lui, il avait demandé 50 000 euros. J'ai remboursé les 3/4. Il me reste toujours les derniers quarts. J'avais 48 heures ou 72 heures pour quitter le pays. Je crois que maintenant, je suis moins intrépide que j'étais plus jeune. Plus jeune, je me disais que traverser une rue, on pouvait se faire écraser, ou tomber d'un toit, on pouvait rester dans un fauteuil roulant pendant le restant de sa vie, tandis que faire un séjour en prison et sortir 5 ou 10 ans plus tard, c'était peut-être mieux. Alors, le risque me semblait un peu moins important que je l'envisage maintenant. Quand j'étais plus jeune, marginal, c'était assez facile à être marginal. Au fil du temps et maintenant, le mot marginal, c'est autre chose. On est soit exclu, ou alors réinséré. Mais le marginal, c'est quelque chose qui n'existe plus. Et peut-être moi, au fil du temps, j'ai pas su m'adapter. Peut-être je pense que j'étais un peu aveugle.
Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui?
Je sais vraiment pas. À vouloir construire ou reconstruire, je sais pas. Quelque chose d'autre.
Sermons are easy, churches are breezy. When everything goes wrong, every scripture leads on to rapture. When doom has struck, it's gone. When towers are falling and mountains are calling, it's simple to kneel and pray. A message will come to the deaf and the dumb in an easy-going way. When nothing is certain, up goes the curtain. When the inner sanctum lurks and everyone sees the forest and the trees, the treason and the clerks. We'll be right back.
it all. And a couple of cents can be sheer eloquence when the highest powers fall. When nothing is certain, up goes the curtain, where the inner sanctum lurks and everyone sees. When nothing is certain, up goes the curtain, where the inner sanctum lurks and everyone sees. The forest and the trees, the trees and the clerks. And so every creature turns to the preacher for the meaning of it all. And a couple of cents can be sheer eloquence when the highest powers fall.
Encore, c'était Les Pieds sur Terre et La Vie de Brian, un reportage de Jérôme Sangla réalisé par Marie Placet. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre, des commentaires, des réactions. Partagez notre travail si il vous a intéressé. Direction les réseaux sociaux, nous avons une page Facebook, un compte Twitter. On vous y attend nombreux. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast. Ça n'est pas très compliqué et ça vous permettra de nous écouter où vous voulez, quand vous voulez, autant de fois que vous le souhaitez et même de zapper les histoires ou les émissions qui ne vous ont pas intéressé.